avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
On a toute une revue de presse aujourd'hui. On s'en parlait là, dans les secondes qui précédaient le retour en ondes.
J'ai fait un beau travail, cette semaine.
Voilà.
Je suis forcée pour vous.
C'est le temps des récoltes.
C'est le temps des récoltes et on commence avec les députés européens,
oui.
Donc de l'Union européenne, qui vont faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap. Ils ont signé donc une entente pour que les personnes en situation de handicap de toute l'État européenne puissent avoir un accès à des conditions spécifiques qui vont aider leur déplacement et une carte, entre autres, de situation de handicap qui mentionne la situation de handicap qui va être acceptée dans tous les pays de l'Union européenne.
Oui, ah ben là, je trouve que c'est important parce que on en avait déjà parlé brièvement il y a quelques semaines. Le projet était dans l'air là, autour du... je dirais de la Semaine internationale des personnes en situation d'handicap. Ça avait été mentionné, mais là, de fait, oui, le 11 janvier, ça c'est jeudi dernier, les députés ont unanimement, les députés membres de la Commission de l'emploi et des affaires sociales ont adopté à l'unanimité l'adoption de cette carte européenne. Donc, on n'en a pas juste parlé, maintenant on va le faire.
Maintenant, on va le faire, puis ça devrait donc aider les personnes en situation de handicap à avoir des droits un peu partout, et on devrait être capable aussi de rendre ces cartes-là disponibles dans un délai quand même très, très court. Et la carte sera à la fois numérique et papier selon ce que les personnes désirent.
Ça, c'est bien aussi, on va pouvoir avoir ça sur son téléphone, puis ça va permettre une standardisation des services à la longue aussi, si tout le monde a la même... la même carte, la même acceptation, puis là, faisant partie de l'espace européen. Bien, ça, c'est bien. En Tunisie, cependant, il y a encore du chemin à faire.
En Tunisie, il y a encore du chemin à faire, et on parle rarement de la Tunisie, François, mais on va en parler cette semaine parce qu'on a une enquête qui vient de sortir sur l'accès des personnes en situation de handicap aux services municipaux de différents pays, donc de différentes municipalités de Tunisie. Et malheureusement, l'enquête a révélé que 74%, oui.
C'est trois quarts, ça.
C'est trois quarts des personnes interrogées estiment que les municipalités tunisiennes ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, notamment au niveau de la facilité des accès des services municipaux.
Puis aussi, l'accueil, il semble que la compétence technique des employés pour communiquer adéquatement et soit pas toujours au rendez-vous dans le traitement des problèmes. On parle quand même de 166 communes qui ont été sondées.
Oui, et on parle aussi de sites web là, qui ne sont pas accessibles. On en a parlé dans les dernières semaines, François.
Tout à fait.
Toute la question des sites web, parce que tout se fait par Internet maintenant, mais on dirait qu'au niveau de l'accessibilité par Internet n'a pas suivi pour beaucoup de sites. Là. C'est très, très mal adapté aux personnes en situation de handicap et à différents handicaps, parce qu'une personne avec des handicaps moteurs n'a pas les mêmes besoins qu'une personne avec des handicaps visuels. Donc,
sensoriel.
Il faut penser à toutes ces personnes-là, et on dirait que en Tunisie, comme un peu partout ailleurs, parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, c'est quelque chose qui manque.
Oui, tout à fait. Et au final, ça donne que presque 45% des répondants ne participent pas, en fait, aux activités de leur municipalité, parce que justement, l'accès n'y est pas. Donc, ça exclut. C'est des gens qui se sentent totalement exclus de ce qui se passe dans leur communauté. Donc, et quand les gens deviennent invisibles...
C'est une roue qui tourne, en fait.
Ben
parce
oui,
que
exact.
Ils ne sont pas consultés, et donc on fait des choses sans les consulter, répondent pas à leurs besoins, et parce que ça répond pas à leurs besoins, ils ne viendront pas aux consultations.
Ils sont d'autant plus isolés. Et comme ils disparaissent, ça vient pas à l'esprit des personnes valides de s'en préoccuper. Puis ils disent, de toute façon, ça coûte cher, puis personne s'en sert. Parce que c'est pas disponible. Mais ça, c'est comme les saucisses high grade, mais dans l'autre sens.
Oui, tout à fait.
C'est pas bon.
J'allais le dire. J'avais vraiment la même image dans ma tête. J'allais en parler.
Les saucisses high grade. Mais de l'autre côté, alors, cette invisibilité-là, c'est ça. Ça provient en partie, dis-je, En premier lieu, du manque de participation, le manque de participation provenant évidemment découlant de source des problèmes d'accès et aussi d'accueil, parce que c'est une chose d'avoir accès, c'est une chose de pouvoir rentrer dans l'édifice.
Mais si on est vraiment très mal accueilli, on ne reviendra pas.
Voilà, exact. Si la personne au comptoir ne sait pas quoi faire avec nous, on fait le tour de la planète. Hein? Et j'espère que ce qui se passe à Vegas ne restera pas à Vegas.
Ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas, pas cette semaine, François. Donc, on parle de CES, Las Vegas, CES pour Consumer Electric Show, donc le show de la consommation électronique.
Ça, c'est énorme, ça, cette foire-là. Hein?
Oui, c'est très, très gros. Et donc, ça a lieu du 9 au 12 janvier 2024. Et on parle quand même de belles technologies qui vont aider les personnes en situation de handicap. On parle, entre autres, d'un gant qui va aider à stabiliser la main pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du tremblement.
Comme ma maladie de Parkinson
oui,
ou quelque
comme
chose
comme
ça. Oui, comme
la maladie de Parkinson. Donc, on parle d'un gant qui va stabiliser, donc aider à faire des mouvements de la vie quotidienne pour ces gens-là. On parle aussi de guidance, qui est un chien guide.
C'est un chien guide qui n'est pas un chien.
Un chien guide qui n'est pas un chien. Donc, un chien guide qui ne mange pas de croquettes.
Ah.
qui va être un peu comme un déambulateur. Donc, qui va pouvoir aider la personne à se promener dans l'espace et avec un GPS. Donc, il va être capable de contourner des obstacles.
Parce que de dire qu'on est à tel ou tel coin de rue, c'est une chose, mais de savoir qu'il y a un banc à l'arrêt d'autobus juste devant nous, ça demande aussi... donc, il va y avoir une perception des obstacles.
Oui, notre chien guide, qui n'est pas un chien guide, va justement agir un peu comme un chien d'assistance, c'est-à-dire va percevoir les obstacles, va être capable de contourner des marches, va être capable de descendre des trottoirs. Tout ça pour aider la personne en situation d'handicap, principalement en situation d'handicap visuel dans ce cas-ci, à s'orienter et à aller à pouvoir mettre sa destination donc dans l'appareil, et l'appareil va l'emmener à bon port en évitant les accidents de parcours.
Donc ça, cet appareil-là s'appelle Glide, et ça vient d'une société qui s'appelle Glidance, G-L-I-D-A-N-C-E. Donc, Glide, ça va enregistrer une destination, comme vous dites, puis créer, en fait, le meilleur chemin et éviter les obstacles. Alors, c'est sûr que ça ne mange pas de croquettes, puis
je préfère mon chien.
C'est moins réconfortant.
Oui, mon chien est plus réconfortant, quelque chose un peu plus sympathique.
Ouais.
Cela dit, pour ceux qui n'aiment pas le poil à la maison,
voilà.
Qui ont beaucoup d'argent, parce que pour l'instant, j'imagine que ça coûte quand même cher.
Ben, peut-être que ça va se démocratiser, je ne sais pas.
Oui,
mais
ben
c'est sûr que, oui, les gadgets, au début, ça peut être assez cher. Tout à l'heure, vous savez, en tout début d'émission, avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, on parlait justement de cette foire où on mettait bientôt à la disposition du public des outils qui permettaient de faire une consultation médicale presque complète en ligne.
Oui.
Et ça, c'est... Donc, voilà, tout ça à Las Vegas. Et il y a un autre appareil issu de la région de Seattle. Seattle, qui, comme on le sait, est le berceau. Hein, les Microsoft, là, c'est... Quand on dit Seattle, on dit Microsoft.
Oui.
Il y a un autre appareil qui, lui, est plus ludique.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'autres appareils, mais on va aussi parier donc du foot au bout des doigts, du foot comme étant le soccer ici. Donc, on va avoir une petite plateforme devant nous qui va permettre de vibrer quand les joueurs vont s'échanger le ballon. Donc, une personne en difficulté visuelle va pouvoir voir le match au bout de ses doigts, donc sentir où est le ballon, sentir où sont les joueurs.
Et
en temps réel, avoir le déplacement à la fois du ballon et des joueurs.
Donc, ça s'appelle One Court. Et ça crée un environnement qui est une réplique miniature.
Terrain.
D'un terrain. Mais on parle aussi, non seulement on parle de ça, on parle de tennis, de hockey, de football américain. Et donc, ce faux terrain pourrait... À chaque fois, c'est la reproduction du jeu.
Être adapté à plusieurs sports, oui.
À plusieurs sports. Alors là, ça va permettre de suivre l'action plutôt que d'être sur VoiceOver sur notre téléphone puis d'avoir une mise à jour à tous les 5 minutes.
Oh, je n'ai pas vécu ça, mais j'avoue que surtout
c'est pas drôle.
Quand tu es dans le stade et que tout le monde crie et que tu ne sais pas.
Hein, on ne sait pas pourquoi.
Oui, on ne sait pas encore pourquoi.
Ben,
j'avoue, c'est pas. Ça donne un autre. Une autre dimension à la journée, oui.
En parlant d'avancer, il y a un autre truc qui s'appelle WeMagine.
Oui, et là, on va loin, François, on va très, très loin avec celui-là. Donc, on parle d'une personne qui peut faire avancer ses pieds dans une machine par la pensée. Donc, au moment où il décide d'avancer son pied, la machine avance son pied pour lui. Donc, une personne qui est paralysée, donc qui ne peut plus se servir de ses jambes, peut... être sur une machine qui, quand elle va lui demander par la pensée d'avancer les pieds, la machine va le faire. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement futuriste ici. Hein.
On parle donc d'un capteur, un implant crânien qui détecte l'activité électrique du cortex. Là où, par exemple, la volonté d'avancer, de poser un geste va naître, l'activité électrique à ce moment-là va être décodée par un ordinateur et qui va
envoyer
la commande au muscle, parce que si, mettons, on parle d'un problème de moelle épinière sectionnée ou ainsi de suite, où là, la transmission ne se fait pas, mais ça, c'est l'implant électronique au cerveau et l'autre au muscle, finalement, ça fait le détour, puis ça rend l'action... possible. Alors là, c'est de la science-fiction.
Oui,
voilà,
on est très, très futuriste, mais ça marche. Donc, il y a des gens qui ont testé, il y a des gens qui n'avaient pas marché depuis plusieurs années, qui ont été capables de marcher grâce à ça. Évidemment, ça va s'améliorer et probablement se démocratiser dans les prochaines années, mais et ça fait plusieurs années qu'on parle de ça, mais on a réussi à le faire.
Alors, on a hâte de voir sur la rue des gens avec des packs-sacs, parce que ça prend l'aspect d'un sac à dos pour l'instant. Évidemment, il faut l'opération pour l'implant crânien. Cela dit, il y a les personnes qui vivent avec une surdité ne sont pas en reste.
Non, on parle aussi des personnes avec une surdité. Donc, parce qu'on parle de ChatGPT, dont tout le monde parle dans les dernières semaines, François, et ChatGPT va maintenant être capable de parler à la langue des signes.
Donc on va avoir la langue des signes. C'est une entreprise, Elios, E-L-I-O-Z, est une entreprise française qui présente Iris, comme l'iris de l'œil, ou peut-être Iris le prénom, qui est un chatbot capable de répondre à des questions posées en langue des signes.
Alors, on parle d'un avatar 3D, oui, qui va être capable de poser des questions avec des signes et à la fois de détecter cette langue-là. Et donc, les personnes qui connaissent la langue des signes vont être capables d'utiliser ChatGPT avec tout le potentiel qu'a cette technologie-là.
Et on parle d'une reconnaissance jusqu'à 3700 signes. Ça me fait penser à un voyage au Japon où on utilisait notre téléphone avec un traducteur, puis on disait au téléphone en français ce qu'on voulait commander dans le restaurant, puis après ça, ça le disait
en
japonais au serveur. Et puis là, ben là, on pourrait faire la même commande en langue des signes, et puis là, ça parlerait à haute voix en japonais.
Oui, quelque chose du genre, à tout le moins.
Ah ben ça... C'est prometteur, voilà. Avant d'aller, de revenir chez nous, si je peux dire, il y a eu à Valence une première en Europe en septembre. Mar Galceran a été élue.
Oui. Mar Galceran, qui est une jeune femme qui vit avec la trisomie 21, elle a été donc élue au Parlement de Valence, devenant la première élue régionale d'Europe avec une trisomie 21. Donc, c'est la première fois qu'on a quelqu'un avec une déficience intellectuelle devant le Parlement, pas devant le Parlement, pardon, qui a été élue au Parlement de Valence.
Et ça, c'est cette militante espagnole qui a prêté serment, ainsi de suite, devenant la première élue régionale d'Europe. Avec une trisomie 21, mais ça fait longtemps, c'est à 18 ans, aujourd'hui elle en a 45, oui. que Mar Galceran fait ses débuts en politique en intégrant le Parti populaire conservateur durant près de 20 ans. Elle a travaillé comme fonctionnaire à Valence dans l'élaboration des politiques d'inclusion. Elle est également à la tête d'organismes valenciens qui accompagnent les familles concernées par la trisomie 21. Donc, elle est très consciente dans l'interview qu'on a pu lire. Elle est très consciente de l'importance de son, je dirais, de son rôle, si je peux dire, parce qu'elle est une pionnière. À 5 mois des élections européennes, l'Association européenne des personnes en situation de handicap espère que le nombre des candidats en situation de handicap va augmenter.
Oui, que ça va servir d'exemple, en fait, pour montrer justement... pour défaire les préjugés, pour montrer que ces personnes-là ont leur place. Et comme on le disait tout à l'heure, le fait que ces gens-là puissent intervenir dans des endroits publics pour prendre des décisions, ça va grandement aider l'accessibilité et que les décisions prennent en compte les personnes qui sont différentes.
Exact. Il y a eu d'autres exemples de personnes vivant avec une trisomie 21 qui ont eu des vies politiques actives en France et en Irlande, entre autres. Mais de la part de Mme Galceran, là, c'est vraiment une avancée, un pas important qui vient d'être franchi. On ne peut pas quitter l'Europe sans encore une fois parler de Paralympiques?
Oui, on va parler de Paralympiques parce que, justement, au niveau Paralympique, il y a des choses qui se passent. On a eu, entre autres, une entente entre différents partenaires avec... Handicap international, entre autres, et la Fédération de tennis pour être capable de rendre le sport plus accessible, particulièrement le tennis. Donc, on veut utiliser les jambes des Jeux olympiques pour rendre ça plus accessible et aussi pour montrer que ces gens-là ont leur place dans le sport et que le sport est très bénéfique pour la santé mentale et physique.
Et sociale.
Des personnes en situation de handicap.
Tout à fait. Alors, c'est la Fédération française de tennis qui a signé une convention avec France Handicap et UGCAM, qui est une société d'assurance pour promouvoir le tennis, le paratennis. Vous savez, Élisane, il existe aussi le CC tennis, le tennis, ce qu'on appelle en Grande-Bretagne le blind tennis, parce que c'est là que ça a commencé, mais c'est très populaire au Japon. C'est du tennis avec une balle qui est plus lente, dans laquelle il y a un grelot.
Ah, qui fait
du bruit. Et ça se joue à Montréal.
Oh!
Oui, les gens à l'Association des sports pour aveugles de Montréal, à la SAM, il y a du tennis pour aveugles chaque semaine.
Je pense que c'est
le mercredi soir. Non, j'y vais pas toujours moi-même, mais je peux vous dire que ça existe. Ça ressemble à du pickleball, mais c'est vraiment bien. Alors, voilà. On prend l'avion. On prend l'avion et après la pause, on atterrit ici. Ah, de retour au Canada. Et maintenant, c'est une habitude pendant la revue de presse. Elisa, nous avons notre chronique ligne aérienne.
Oui, malheureusement, François, on en reparle cette semaine. Et c'est pas des bonnes nouvelles. Comme généralement, quand on parle des lignes aériennes, malheureusement, là, on parle d'Air Canada. On a parlé d'Air Canada dans les dernières semaines, François. Rappelez-vous, donc, la personne qui avait été refusée, Monsieur Rose avait été refusé, pas lui, en fait, mais son fauteuil roulant avait été refusé sur un vol entre Toronto et Kevin, parce que le fauteuil roulant était trop gros.
Ça ne rentrait pas dans la soute. Et cet automne, il y avait eu une cascade de dénonciations. Ça l'avait obligé, enfin, le gouvernement ne pouvant plus tenir là-dessus, avait convoqué Air Canada à une enquête devant le Parlement à Ottawa. Air Canada s'était fondu en excuses. Ils avaient annoncé à grand coup de fanfare la nomination d'un responsable à l'accessibilité, et ainsi de suite. Mais là, tout cela dit, en arrière-plan, Air Canada conteste une ordonnance sur les fauteuils roulants.
Oui, donc Air Canada qui n'est pas content parce que justement, on a obligé Air Canada donc à trouver des vols similaires lorsqu'un fauteuil roulant ne peut pas entrer dans une cabine, donc de changer de type d'appareil. Ou à tout le moins de trouver un vol qui est concurrentiel, qui va permettre à la personne de se déplacer dans les mêmes délais sans trop bousculer son horaire. Mais là, Air Canada qui dit que c'est très très compliqué de changer à la dernière seconde ses itinéraires de vol ou ses appareils pour être capable de prendre un fauteuil roulant qui est hors des normes d'Air Canada.
C'est parce que, semble-t-il, que en fait, l'Office des transports du Canada qui oblige la compagnie maintenant à accueillir les passagers dont les fauteuils roulants électriques ne passent pas la porte cargo, parce que les portes cargo, ça, je viens d'apprendre ça, ont trois pieds de dégagement. Et certaines, donc 36 pouces, et d'autres, ils ont 2,5 pieds. Et même quand tout est compacté, on ne peut pas glisser
certaines... Il y a certains équipements qui ne fonctionnent pas. Par contre, ce serait, à Air Canada de se débrouiller pour trouver autre appareil ou, à la limite, un autre vol pour que la personne puisse atteindre sa destination dans des délais qui sont raisonnables. Voilà. Si, toutefois, la personne fait une demande dans les 3 semaines à l'avance.
Préalable, exact. Alors, on verra ce que ça donne. Alors, Air Canada... Sauf le chaud et le froid, hein? On verra comment ça va être tranché, cette question-là, parce que ça va faire jurisprudence et on verra quelles sont les limites des accommodations.
Donc, ça s'en va en cours d'appel, François.
Oui, à suivre. On va vous revenir dans la prochaine chronique ligne aérienne là-dessus. à Hunsic-Cartierville, plus près de nous, là aussi, il y a comme un manque d'espace.
Oui, un manque d'espace, mais on parle de manque d'espace sur le sol, François.
OK.
On parle, d'un manque de stationnement pour les personnes en situation de handicap, donc les stationnements réservés. Il n'y en a pas assez en Hunsic-Cartierville. On a une population donc d'environ 10% qui est en situation de handicap et on a seulement des stationnements. Et on parle des stationnements sur la rue.
Avec un parcomètre.
Oui, des stationnements donc sur la rue, on ne parle pas des stationnements donc d'édifices, mais bien des stationnements sur la rue qui ne sont pas assez nombreux.
Il y en a 5.
Il y en a 5.
5, comme les doigts de la main, là.
Oui.
Alors, ça fait pas beaucoup. Et donc, il y a simplement 5 stationnements payants réservés aux personnes handicapées sur l'espace des voies tarifées à Hunsic-Cartierville. Il se situe sur les rues Fleury et Chabanel, parce que c'est quand même des rues commerçantes. Mais cela dit, l'accessibilité dans Hunsic-Cartierville est un peu déficiente. La station de métro Henri-Bourassa est la seule à disposer d'un ascenseur, alors que les autres stations du coin n'en ont pas. Quant au réseau de trains EXO, seule la ligne 15 est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Aux gares de Sauvé et Hunsic ne disposent toutefois pas d'aucun stationnement réservé. Bon. Deux autres gares qui permettent d'emprunter de la ligne 12 à destination de Saint-Jérôme sont inaccessibles. Donc, on a un problème à Hunsic Quartier-Ville pour l'accessibilité et ça nous amène à la neige.
Oui, on va encore parler de la neige, François, parce qu'on peut en parler là, pour les personnes en situation.
Il y a tombeau tout le temps.
Oui, en situation, les personnes en situation de handicap ont quand même eu une belle semaine, François, au niveau de la neige. On pourra en reparler. Donc, des trottoirs inaccessibles, des trottoirs mal déneigés. On part cette fois-ci donc dans Vanier et Pointe-aux-Lièvres, dans la ville de Québec.
La ville de Québec, voilà. Puis à Québec, quand il neige, il neige.
À Québec, quand il neige, et malheureusement, ça devrait être prioritaire de dégager donc des points d'embarquement et de débarquement des personnes en situation de handicap. Même chose au niveau des trottoirs. Et pourtant, ça n'a pas été fait cette semaine. François, il y a quand même des gens là, qui sont prêts à porter plainte à la Commission des droits de la personne parce que ils jugent qu'ils ont été discriminés, ne pouvant pas sortir de la maison, là, parfois devant manquer des journées de travail.
Oui, exact.
À leur frais ou selon leur régime de congé, donc prendre des congés qu'ils ne prendront pas
ils
ailleurs.
Ils ne prendraient pas, parce que de dire je prends congé parce que je suis coincé à cause de la neige, c'est pas un week-end de plaisir à la campagne.
Donc, pour ces gens-là, il s'agit évidemment de discrimination et ça va aller devant la Commission des droits de la personne, François.
Exact, parce qu'on a vu des photos, les chenillettes poussaient la neige des trottoirs jusqu'au coin de la rue, puis là, ils faisaient une montagne.
Oui.
Mais pour embarquer en transport adapté, là, c'est pas super. Ben, on va se laisser là-dessus. La neige, c'est un autre sujet dont on va certainement reparler,
oui.
Parce qu'avec tout ce qui est tombé au cours des... La dernière semaine.
Malheureusement, l'hiver n'est pas fini, François.
Non, c'est pas fini, puis il doit y avoir quelques histoires d'horreur à gauche et à droite. Cela dit, nous tenons à remercier Mathieu Tessier, notre technicien qui est expert pour nous rappeler à l'ordre et qui fait plein de travail important et qui ne paraissent pas toujours comme des ajustements de micro. En cours de route.
Merci. Je ne sais pas de quoi on parle.
Je ne sais pas de quoi on parle. Claire Guérin à la recherche qui nous permet de rejoindre plein de gens qui ont des choses, un tas de choses à nous dire. Élisane Pellerin, merci encore pour la revue de presse.
Merci. À la semaine prochaine, François.
Oui, tout à fait. C'est le mot juste. À la semaine prochaine, on se reparle. Tout le monde, ici François Beauregard qui vous dit « Sans détour ».
Après